France Inter.
Cette réforme, elle était quand même supposée répondre aux besoins de financement de notre système de retraite. On nous avait assuré à l'époque que ça réglerait le problème et que pendant 30 ans, il n'y aurait plus besoin de faire une nouvelle réforme. Eh bien aujourd'hui, ça fait à peine un an et demi que la réforme se met en place et on nous dit déjà en fait qu'il faudrait aller plus loin et qu'il faudrait aller aux 65 ans. Parce que c'est ça le discours du gouvernement et du patronat. C'est une honte.
La secrétaire générale de la CGT, ce matin, sur France Inter, au micro de Marion Lourd. Bon, le gouvernement qui veut en réalité faire travailler les Français jusqu'à 65 ans, c'est l'analyse de Sophie Binet. Ça n'est pas encore pas un objectif affiché par le gouvernement qui vient justement de mettre le volant entre les mains des partenaires sociaux, le fameux conclave sur les retraites qui débute jeudi prochain. 3 mois pour améliorer la dernière réforme sans dégrader les comptes. Voilà officiellement la mission confiée par Bercy. Ce qui est exact, c'est que cette dernière réforme n'a qu'un effet limité sur le déficit, surtout après 2030. On trouve cela dans le dernier rapport de la mission flash de la Cour des comptes, le grand moment de cette semaine, la vérité sur les chiffres. Et en résumé, oui, nous avons un problème de financement, non, l'assurance vieillesse n'est pas en train de s'effondrer, et alors surtout, non, il n'y a pas de déficit caché. À ce sujet, ça n'est pas le plus petit mérite de ce rapport que d'enterrer cette idée soutenue par François Bayrou depuis 2 ans, depuis le commissariat au plan jusqu'à Matignon, un discours suspicieux, regrettable, tant l'effet peut être corrosif sur la confiance des cotisants. Je reviens au conclave, dans ce contexte, il ressemble dès l'origine à une nouvelle mission impossible. Abroger la réforme pour la CGT, obtenir un bouger sur l'âge pour la CFDT, parler de capitalisation pour la CPME, éviter toute augmentation de cotisation pour le MEDEF. Donc, peu de marge financière, un terrain de jeu très balisé par le gouvernement et chaque joueur qui arrive avec une stratégie différente. On n'a pas fini de parler de l'âge de la retraite et de la durée de cotisation.
On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd sur France Inter.
Bienvenue dans votre mag Écho. Nous sommes ensemble jusqu'à 10h avec la bande Valentin Pérez, Céline Hilla, Hélène Bizio, Joseph Ascal, au mix Pauline Laverdure et à la technique ce matin, c'est Jérôme Ragano qui nous accompagne. Lundi prochain, cela fera 3 ans que la Russie a envahi l'Ukraine, déclenchant ainsi la guerre au cœur de l'Europe. 3 ans plus tard, le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche est en train de changer la donne. On en parle avec mon invité, c'est l'économiste russe Sergueï Gouriev. Exilé, ancien conseiller de l'opposant Alexei Navalny, il a travaillé sur la mise en place de sanctions contre la Russie. Pour quel résultat ? Que se passerait-il si les États-Unis levaient ou assouplissaient seules ces sanctions ? Interview vers 9h40. On en profitera pour faire un point sur nos dépendances. Si notre lien énergétique avec la Russie s'est beaucoup distendu, nous sommes encore très accro aux engrais russes. À ce sujet, vous entendrez le dossier de Timothée David. Et nous allons prendre des conseils de pardon, de lecture ce matin. Les dernières sorties au rayon Écho, c'est avec Christian Chavagneux. Salut Christian.
Bonjour Alexandra Ben Saïd, bonjour à toutes et à tous.
Ce samedi, vous nous arrivez avec 2 livres sous le bras, un tout petit et un très gros.
Oui, un petit livre sur nos écrans et un gros livre d'histoire économique sur ces acteurs magnifiques que sont les multinationales.
On se retrouve juste avant 10h pour les conseils de lecture. Mais d'abord, comme d'habitude, pour démarrer, on décrypte l'actualité avec une économiste. Bonjour Anne-Laure Delatte.
Bonjour Alexandra.
Vous êtes directrice de recherche au CNRS et face à vous un journaliste. Salut Marc Vigneault.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous.
Marc, membre de la rédaction de l'Opinion. Alors jeudi soir, juste avant minuit, les députés ont adopté la taxe Zuckmann, un impôt plancher sur le patrimoine des ultra-riches. De quoi s'agit-il ? Est-ce que cette taxe a une chance de devenir réalité ? Une chance ou un risque, diront certains. Est-ce le même dispositif que cette taxe Zuckmann et que le dispositif sur lequel travaille le gouvernement ? Tout cela, vous le saurez en écoutant le débat.
Aujourd'hui, nos ultra-riches ne payent pas ou très peu d'impôts.
Gabriel Zuckmann, économiste, professeur à la Paris School of Economics.
Il faut le dire, la France, c'est un paradis fiscal. Là, ce dont on parle, c'est de créer un taux plancher d'imposition, un taux modeste, 2%, pour 1800 foyers fiscaux, possédant chacun plus de 100 millions d'euros de patrimoine.
Les impôts exceptionnels resteront bien exceptionnels en 2025 et il n'est pas question pour nous de créer de nouveaux impôts.
Amélie de Montchalin, ministre chargée des comptes publics.
Ce que vous créez est une contribution maximalement confiscatoire qui, si elle était adoptée, ferait immédiatement partir les milliers de foyers aisés et avec eux les capitaux à l'étranger. Le seul risque de cet impôt, c'est que personne, à la fin, ne le paye.
Ce que nous avons prévu, c'est un dispositif qui se rapproche de l'exit tax.
Eva Sas, députée Les Écologistes.
C'est-à-dire que si vous avez vécu en France pendant 10 ans et que vous partez, eh ben notre impôt plancher sur la fortune, il continue à s'appliquer pendant encore 5 ans.
Là, on s'adresse à des gens, des entreprises qui sont par nature internationales.
Sylvie Matera, consultante au cabinet de conseil Mazars.
Toute mesure nationale pose problème parce qu'après, ce n'est pas traité pareil à l'étranger, donc il y a des problèmes de distorsion. S'il faut sortir à peu près 100 millions par an, comment on le fait concrètement? On doit vendre des actions d'entreprise, on les vend à qui? Donc, je comprends ces notions d'inégalité, mais il y a un problème de liquidité.
Cette taxe fait réfléchir, mais elle est très difficile à mettre en pratique pour des raisons de concurrence fiscale, pour des raisons effectivement d'établissement de sociétés qui iraient ailleurs.
Mathieu Plane, directeur adjoint du département analyse et prévision à l'OFCE.
Le constat, il est quand même assez clair. Le taux de fiscalité augmente jusqu'à 0,1% des plus hauts revenus et qu'après il baisse. Une question qui se pose, c'est comment mettre à contribution les plus hauts patrimoines au redressement des comptes publics à hauteur de ce qu'ils pourraient faire.
Revenus, patrimoine, comment est-ce qu'on peut mettre à contribution les plus riches de la société française? Marc Vigneux, Anne-Laure Delatte avec moi pour faire ce débat. Anne-Laure Delatte, je me tourne vers vous, expliquez-moi cette taxe Zucman. On revient pour ceux qui auraient raté l'épisode. De quoi parle-t-on exactement?
Alors, taxe Zucman, ça vient de Zucman, Gabriel Zucman, qui est un économiste français relativement jeune, hein, il a une quarantaine d'années. Il est revenu, il était à Berkeley, il est revenu en France il y a assez peu de temps. Il a réussi à lever des fonds, disons, des fonds européens. Il a reçu une énorme subvention de la Commission européenne pour monter son EU Observatory Tax. Non, je le dis mal, mais en gros, c'est un observatoire sur la taxe en Europe. Et c'est quelqu'un, surtout, qui a une obsession. Son mémoire de M2, en 2008, c'était sur l'évitement fiscal des très riches. C'était comment est-ce que les riches échappent à l'ISF. Vous vous rendez compte, 2008. Il était d'ailleurs dirigé par Thomas Piketty. Il fait partie de cette équipe, Thomas Piketty, 16, etc. Alors, qu'est-ce qu'il propose? Depuis 15 ans, il travaille sur ces données et il essaye de comprendre pourquoi il part de cette idée qu'il y a eu un accroissement des patrimoines très important tout en haut de l'échelle des patrimoines. Et il essaye de comprendre comment est-ce qu'on a on a réussi à arriver à une situation où partout dans le monde, et en particulier en France, les très 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 riches payent moins d'impôts que le reste de la population. Et donc, pour remédier à ça, le principe, c'est de se dire, ok, en fait, la plupart des ultra-riches arrivent à sous-estimer leurs revenus, et donc si vous les imposez sur leurs revenus, en fait, vous arrivez à un niveau d'imposition qui est, encore une fois, moins important que le reste de la population. Il est deux fois moins important, hein. Il paye moins d'impôts que vous et moi, à la fin. Et donc, sa solution à lui, c'est de dire... On est en revanche capable d'estimer proprement leur patrimoine, donc on met tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent, et on va leur demander que tous les impôts qu'ils payent, tous, hein, revenus, TVA, impôts sur les sociétés, tout, doit arriver à au moins 2% de leur patrimoine. Alors, aujourd'hui, c'est 0,3%. Hein, oui. Mais enfin, c'est l'ensemble oui, il n'y a pas la TVA, pardon. Donc, l'ensemble des impôts. Aujourd'hui, on sait, grâce à des données assez récentes, que ces gens-là ne payent que 0,3% d'impôts
sur le patrimoine. Ça, c'est l'Institut des politiques publiques.
Voilà.
Ouais, ça, c'est le travail de l'Institut des politiques publiques.
C'est le travail de Bozio, BAC, de l'IPP.
Marc Vigneux, qu'est-ce qu'on ajoute à cette photo? Donc la photo de l'imposition très faible des ultra-riches, on est en train de parler, vous allez nous dire, de très peu de personnes.
Alors attendez,
en France.
Très faible, de quoi parle-t-on? Ils payent environ 2% d'impôts sur le revenu, puisque justement, ils s'arrangent pour ne pas avoir besoin de beaucoup de revenus par rapport à leur fortune.
Oui, c'était ça. Ils ont beaucoup de revenus, mais par rapport à leur fortune, c'est peu de choses.
Mais il faut ajouter l'impôt sur les sociétés, puisque on regarde ce qu'on appelle le revenu économique, c'est-à-dire le revenu qui est un revenu qui n'est pas touché par la personne, qui est issu des sociétés. Donc, il faut rajouter l'impôt sur les sociétés. Ça, l'IPP le dit. Donc, à la fin, cette imposition l'inflation tourne autour de 26%. Et c'est vrai que l'impôt marginal sur le revenu en France, c'est plutôt 46-47%. Donc la question, c'est de corriger pour passer de 26, en gros, et arriver à quelque chose qui serait progressif, comme le reste de l'impôt sur le revenu, puisque ces gens-là sont très aisés. Et donc arriver à un peu plus de 46, et après on peut fixer une barre. Et donc, pour rattraper cette faiblesse de l'imposition sur le revenu, on veut taxer, enfin, Gabriel Zucman propose, et les écologistes dans leur niche parlementaire, veulent taxer le patrimoine, y compris le patrimoine professionnel, c'est-à-dire la valeur de l'entreprise détenue par les familles quelques familles, par exemple, qui détiennent des très grandes entreprises. On va donner un exemple, le LVMH, pour que
voilà,
ça soit clair.
J'allais vous dire, est-ce qu'on peut personnaliser ? C'est-à-dire que ce que vous avez dit depuis le début, j'essaie de résumer parce que vous avez tout ça en tête, mais c'est compliqué. Vous êtes en train de nous dire qu'il est établi que Bernard Arnault, LVMH, paie moins d'impôts que vous et moi, c'est ça ?
Oui, si on regarde leur revenu économique et non pas le revenu foyers personnel.
Ouais, il y a 1800 foyers, donc 3600 personnes, qui sont visées par cette taxe parce que elles payent moins d'impôts que vous et moi. Et donc, il y a un souci à la fois de justice fiscale pour ramener de la progressivité dans ce système, mais aussi un souci d'efficacité, parce que si on prend la taxe Zucman, alors à 2%, ça aurait un rendement de 20 milliards d'euros. Si vous mettez 1%, ça a un rendement de 7 milliards. Si vous mettez 3%, ça a un rendement de 30 milliards. Aujourd'hui, on estime qu'on peut ramener 20 milliards de recettes. Or, on est dans une situation budgétaire où je ne suis pas sûre qu'on puisse se permettre de se priver de 20 milliards de recettes.
C'est ça, ce qui est assez intéressant, c'est que dans la proposition de loi écologiste, ils disent, je crois, 20 ou 25 milliards. Zucman, Twitter, il y a quelques temps, il disait 15-20 milliards. Donc, c'est quand même un peu au doigt mouillé, évidemment.
Non, ce n'est pas au doigt mouillé, c'est vraiment...
Si, puisque Gabriel Zucman lui-même donne un chiffre, une fourchette de 15 à 20, et la proposition écologiste qui reprend exactement le même impôt dit 20-25. Donc là, on est passé à pratiquement 10 de plus pour le même impôt.
Le doigt mouillé, c'est compliqué de dire ça quand vous êtes avec des gens qui travaillent sur des données vraiment très précises. Justement, c'est pas du doigt mouillé. La difficulté, c'est que par définition, en fait, c'est compliqué d'estimer ses revenus et ses patrimoines surtout. Donc c'est ça en fait, c'est pas une histoire de doigt mouillé, c'est qu'en fait on manque de données à ce niveau-là. On a les liasses fiscales de la plupart des Français, mais voilà, non mais je veux dire, c'est des gens qui travaillent là-dessus depuis une dizaine d'années, on a un problème de données. Non, quoi.
Donc ce qui serait taxé, qu'est-ce qu'on appelle le patrimoine ?
C'est votre patrimoine immobilier, c'est toute votre fortune en fait, tout ce qui peut composer votre fortune, du patrimoine financier, tout ce qui est la valeur des actions de votre entreprise. Il faut savoir que ce raisonnement s'appuie sur l'idée que la valeur de ces entreprises en fait s'est considérablement accrue. Mais est-ce que ces personnes ont vendu les parts de leur société ? Est-ce que vous savez si dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, la société vaudra exactement la même chose si la situation économique ne va pas ou si la Chine se referme, par exemple pour les sociétés de luxe ? Donc en fait le raisonnement c'est virtuellement vous avez une fortune qui a gonflé, vous n'avez pas touché les... C'est comme si vous avez un appartement à Paris que vous voulez un jour racheter à Paris ou que vous n'avez pas vendu cet appartement. Virtuellement, vous avez une fortune qui a considérablement progressé. Mais enfin, vous ne vivez pas mieux dans votre appartement à Paris il y a 20 ans qu'exactement le même appartement à Paris aujourd'hui. Un jour, peut-être, vous le transmettrez à vos enfants qui en bénéficieront. Peut-être qu'un jour, vous le revendrez pour aller vous installer ailleurs où les prix de l'immobilier n'ont pas assez augmenté, mais votre fortune... À l'heure actuelle, vous n'en jouissez pas de manière beaucoup plus forte.
Alors, Anne-Laure Delatte, je vois que vous n'êtes pas d'accord.
Non, je trouve ça toujours très compliqué de comparer ces ultra-riches, encore une fois, ces 3600 personnes en France, à vous et moi. C'est-à-dire, quand vous comparez avec l'appartement à Paris, ça n'a rien à voir.
Patrimoine au-dessus de 100 millions.
Au-dessus de 100 millions. Moi, je ne connais personne. Et ce n'est pas une histoire morale. C'est-à-dire qu'en fait, des gens qui ont plus de 100 millions, encore une fois, voilà, on est sur 3600 personnes. Qu'est-ce que ça veut dire ? À ce niveau-là de richesse, 90% de la fortune est détenue en biens professionnels. Mais sous quelle forme ? Sous forme d'actions. Par exemple, Bernard Arnault, il détient 180 milliards de patrimoine. 180 milliards, ça veut dire que, ça veut dire qu'il a un rendement aujourd'hui, j'ai calculé, de 1 million toutes les heures. Vous voyez, enfin, je veux dire, on n'est pas du tout sur moi et vous qui avez un appartement à Paris, quoi.
Ce qui est déjà pas mal.
Non, mais juste pour finir. Alors non, c'est pas complètement virtuel parce que par exemple.
Elle finit, vous y allez après.
C'est pas complètement virtuel. Donc il a 90% de son patrimoine qui est en action LVMH. Donc c'est du rendement. C'est du rendement à 6-10% par an, disons 6% par an. Ça veut dire que cette taxe à 2%, en gros, si on imagine qu'il a un rendement de 6% par an, on lui retire seulement 2%. Il a toujours sa fortune, elle continue à croître. C'est ça que je voudrais qu'on ait en tête.
Marc,
c'est-à-dire
oui.
qu'on ne réduit pas du tout sa fortune, on réduit juste le rendement. Et là, l'idée, c'est de travailler sur cette accumulation de patrimoine qui, à la fois... Alors, ça a été multiplié par 6 en 10 ans. On est passé de 200 à 1200 milliards pour les 500 plus grosses fortunes en France. Et réussir à récupérer un peu de recettes fiscales dans une situation budgétaire où on vous demande de réduire le remboursement médical, de faire des efforts
vous
sur l'âge de la retraite.
Alors vous dites justice. Alors la ministre Amélie de Montchalin, elle dit que ça serait confiscatoire et inefficace.
Alors je voulais juste préciser que si par exemple la valeur de LVMH s'effondre dans 3 ans, on lui aura pris de l'argent et en fait l'entreprise vaudra moins. Donc ça c'est juste, mais c'est un détail.
Oui, c'est un détail sur 50 ans, il y a un rendement de 10% par an quoi. Donc c'est compliqué de se dire que ça va complètement s'effondrer.
Tout le monde est pour la taxation des ultra-riches, ça c'est sûr. S'il y a des effets d'optimisation, il faut pouvoir s'y attaquer. La question c'est, est-ce qu'on prend le bon outil pour s'attaquer à ça ? Là, on met tous les biens professionnels à un taux qui est très important. Il y a une note de Terra Nova qui était pour ce genre d'impôt, qui disait que ça peut se faire, mais à un taux maximal de 0,5%, pour des tas de raisons de jurisprudence constitutionnelle. Il y a un économiste comme Olivier Blanchard, ancien chef économiste du FMI, tendance social-démocrate, etc., qui dit « oui, je suis pour le principe de cet impôt, mais plutôt à 1%, parce que c'est extrêmement élevé ». Le problème de cet impôt, qu'est-ce que ça va faire ? C'est que si vous avez une fortune purement professionnelle, vous avez par exemple Mistral AI, Arthur Mensch. Il a une société, il a mis 15 000 euros dans la société. Il a fait des tours de table, il a créé une intelligence artificielle qui rivalise avec les Chinois et les Américains. Il a donc la part de sa société vaut une fortune. Il n'a rien touché, hein. Il n'a peut-être pas d'argent par ailleurs, il n'a peut-être même pas un bien immobilier acheté à Paris. Lui, il est redevable de cette taxe à 2% de la valeur virtuelle de la part de son entreprise. Qu'est-ce qu'il va faire, Arthur Mensch,
alors,
pour régler cet impôt ?
Je termine.
Il va vendre ses parts d'un quelque chose qui n'est même pas coté en bourse, donc ce n'est même pas liquide. Qui va racheter, si tous les Français sont touchés par cette taxe ? Qui va racheter ? Les Américains, les Chinois et tous les concurrents. Et donc, si vous voulez, quand on a un besoin d'innovation, on prend un marteau pour écraser une mouche qui est ce phénomène d'optimisation que tout le monde veut combattre, que tout le monde a identifié et qui n'est combattu efficacement, je vais vous dire quoi, dans aucun pays du monde. Et comme d'habitude, la France va être la seule à faire quelque chose en étant le phare du monde et en disant, il faut le faire au niveau mondial. Oui, il faut le faire au niveau mondial. Bruno Le Maire y travaillait, le gouvernement y travaille, mais là, nous, on veut encore être plus vertueux que tout le monde.
Alors,
et on va tuer l'économie française au moment
Marc,
où il y a la concurrence américaine et chinoise.
Cet exemple... Du jeune start-upper.
Ouais, ouais.
Il y en a plein. Premièrement, en fait, vous donnez exactement l'exemple de la personne qui va complètement sous-estimer ses revenus. Et si elle a effectivement un gros capital détenu dans sa société, elle est capable, en fait, de notamment vivre en s'endettant. C'est exactement comme ça qu'ils vivent, ces gens-là. C'est-à-dire que vous dites, ah, il a très peu de revenus, mais il a un gros capital qui n'est pas liquide. C'est exactement comme ça que ces gens arrivent à sous-estimer leurs revenus. Donc vraiment, votre exemple est parfait.
Oui.
Premièrement. Deuxièmement, si on a un problème de liquidité, vous avez raison. Si on a un problème de... Alors, deuxièmement...
Une minute, hein, il ne reste qu'une minute.
Oui, oui. Deuxièmement, si on a un problème de liquidité, on peut tout à fait envisager des mécanismes, et ça c'est dans la loi, dans la proposition de loi, envisager des mécanismes qui vous permettent d'échelonner les paiements, d'éviter aussi, on a le droit en France, que Bercy s'oppose à vendre des actions à l'étranger, enfin à ce qui est une pour Biogarant, on avait fait ça par exemple. Donc il y a plein de systèmes. Ce que je veux dire, c'est que vous êtes en train de vous personnaliser, vous incarner des difficultés sur un cas.
Mais
sur
non, mais
cinq
y a plein,
cas, comme
y a plein
si, et, attendez, pas, juste une chose. Arthur, cette personne, vous parlez d'innovation, par exemple. L'innovation, c'est aussi du capital humain collectif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la situation budgétaire, elle est telle qu'on a voulu couper 4000 okay. postes de profs. Ça veut dire qu'on coupe le capital humain. Oui. Donc c'est pas une histoire de justice, c'est une histoire d'efficacité. Si ouais. avec cet argent-là, on est capable de refinancer de l'éducation, ouais. alors il y aura de l'innovation
alors,
en France.
Vous voyez bien que si on est le seul à le faire,
Marc,
les gens vont partir même avec une exit tax. Les gens ne vendront pas leur capital avant la fin de l'exit tax et donc en fait, ils vont partir.
L'énorme
en fait, il y a deux manières plus intelligentes de taxer le capital. Il faut voir que le gouvernement
au niveau international.
On n'a même pas parlé du dispositif gouvernemental.
Ah bah alors il est en train d'en faire un autre, mais si j'ai bien compris, pas du tout le même, n'est-ce pas ?
Complètement différent.
Non, je ne vous lançais pas, j'attendais un oui ou un non. Anne-Laure Delatte et Marc Vignot, on parlera du dispositif du gouvernement une prochaine fois, ils ont fait le débat.
Et déindustrialiserons
une crise. Unemployment and lower job creation.
Maintenant qu'on y a cette économie.
L'écho en VO, fin de campagne électorale chez nos voisins allemands. C'est là que nous partons tout de suite. Los.
Das geht, die Möglichkeiten haben Sie auch, haben Sie in der alten Koalition nicht durchgesetzt, wollten Sie, aber haben Sie nicht hinbekommen.
Doch.
Wir müssen, naja, die natürlich haben Sie es über den Jahreswechsel nochmal versucht und nicht hinbekommen.
Wir haben es sogar hinbekommen.
Der Koalition dann gescheitert.
Passe d'armes entre Friedrich Merz et Olaf Scholz. À la télévision, le favori des sondages, Friedrich Merz, dit du mal de la coalition précédente qui n'a pas réussi à avoir de bonnes performances économiques. Et alors, le chancelier Olaf Scholz s'indigne. Il répond « Dor, dor, si, si ». On est au maximum de l'énervement sur ce plateau. On va dire que c'est un débat très civilisé en Allemagne. Bonjour Sébastien Baer.
Bonjour Alexandra, bonjour à tous et bravo pour l'allemand.
Vous êtes l'envoyé spécial permanent de France Inter en Allemagne. Deux années consécutives de récession pour la première économie européenne. Évidemment, c'est l'un des thèmes phares de la campagne. Les candidats ont déroulé leurs propositions pour sortir de la crise. Sébastien, le futur chancelier devra aussi faire face à une grande inconnue. Ce sont les relations de l'Allemagne avec les États-Unis. C'est un sujet d'inquiétude.
Oui, parce que les États-Unis représentent le premier marché pour le Made in Germany devant la Chine désormais. L'année dernière, l'Allemagne a vendu des marchandises aux États-Unis pour un montant de 161 milliards d'euros, plus 2,2% par rapport à 2023. Cela représente plus de 10% du commerce extérieur allemand contre 8,5% par exemple en 2016. Autrement dit, les entreprises sont plus dépendantes encore des États-Unis que lors du premier mandat de Donald Trump. Si le président américain impose des droits de douane de 25%, les conséquences seront lourdes pour l'industrie automobile qui a vendu 1,4 million de voitures aux États-Unis l'an dernier, mais aussi pour les secteurs des machines-outils, de la chimie, des produits pharmaceutiques. Un quart, par exemple, des exportations de produits pharmaceutiques filent vers les États-Unis, deux fois plus qu'en 2008. Selon l'Institut économique IMK, une guerre commerciale pourrait coûter cette année à l'Allemagne un point de croissance et 300 000 emplois.
Sébastien, le défi pour les candidats à la chancellerie, c'est donc d'apparaître comme l'homme ou la femme de la situation.
Oui, il ne suffit pas ou plus d'exceller simplement en matière de politique intérieure. Il faut aussi donner l'impression d'avoir la stature, l'envergure pour tenir tête à Donald Trump. Le futur chancelier devra trouver la réponse à cette question. Comment composer avec le président américain ? Olaf Scholz a adopté une attitude, disons, prudente, distante. Après le retour de Trump à la Maison-Blanche, il s'est contenté du service minimum. Quelques mots de félicitations postés sur X. À l'inverse, le ton du conservateur Friedrich Merz est plus conciliant. Lui a adressé à Trump un courrier manuscrit pour le complimenté après, je cite, une victoire remarquable. Merz, 69 ans, revendique 170 voyages aux États-Unis. Il se pose en homme de la situation et voit en Trump une opportunité pour l'Europe. Donald Trump a annoncé qu'il dévoilerait le niveau des droits de douane début avril. Friedrich Merz, grand favori du scrutin allemand, vous l'avez dit, a lui promis un gouvernement le 20 avril au plus tard. S'il est élu chancelier, il sait d'ores et déjà quel dossier l'attendra tout en haut de la pile.
En effet, Sébastien Baer, avec nous en direct de Berlin. Danke schön, Sébastien.
Bien.
9h36 sur France Inter. Dans moins de 10 minutes, l'invité dont n'arrête pas l'écho, c'est l'économiste russe de renommée internationale, Sergueï Gouriev. 3 ans depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, 16 paquets de sanctions européennes, des sanctions américaines aussi. Mais la donne a changé depuis un mois et l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche. Interview sur nos armes économiques et leur portée réelle. La réalité, c'est aussi que de gré ou de force, l'Europe a allégé le fardeau de ses dépendances vis-à-vis de la Russie. On pense au gaz, au pétrole, bien sûr. Mais certaines de ces dépendances n'ont pas disparu. Et là, c'est le cas pour notre agriculture. un quart des importations d'engrais de l'Union européenne provient toujours de Russie, c'est le chiffre de 2024. Et nos importations françaises d'engrais russes ont même été multipliées par 3 en 4 ans. Alors fin janvier, la Commission européenne a proposé de mettre un terme à cette situation avec des sanctions ciblées. Mais quelles conséquences sur la Russie et puis quelles conséquences sur nos agriculteurs ? Allez, nous sortons du studio 521. Nous voici maintenant à quelques kilomètres au sud de Versailles, à la ferme du Trou Salé. Pour les fans de Blake et Mortimer, oui, c'est bien la ferme de l'album SOS Météor. Mais là, tout de suite, le sujet de notre reporter Timothée David, ce sont les engrais. Tous les engrais qu'utilise le propriétaire des lieux.
Le sac vert, c'est de l'urée avec un inhibiteur en fait, pour éviter tout ce qui est perte par volatilisation.
D'accord.
Voilà, donc ça dose à 46%. Voilà, c'est un engrais donc, qui s'appelle le Nexen. Là, vous avez un engrais, donc Yara, c'est un engrais en fait azoté avec du soufre. Mm-hmm. Julien Thierry, je suis agriculteur depuis 10 ans. Je cultive du blé, du colza, du maïs, des betteraves sucrières. On est en pleine période d'épandage en fait d'engrais. On commence à mettre donc notamment de l'azote sur les cultures, également du soufre aussi, pour justement faire que les cultures, en fait, au moment où les températures vont se réchauffer à la reprise de la végétation, aient de quoi se nourrir. Donc on est vraiment dans la pleine période d'apport d'engrais. Le cours des engrais a déjà beaucoup augmenté. Hein. Moi, j'avais acheté une grosse part de mes engrais au mois de mai l'année dernière. Et donc, à l'époque, j'avais payé la solution azotée autour de 220-230 euros la tonne. Aujourd'hui, le cours est à 340 euros. Donc, il y a une augmentation de 50% déjà en quelques mois. Quand on regarde en fait quelle quantité on va apporter, c'est effectivement pour répondre aux besoins de la plante par rapport à ce qui reste dans le sol, par rapport au potentiel de rendement qu'on a, mais aussi par rapport au coût des engrais. Est-ce que ça vaut le coup d'aller chercher les derniers quintaux ou pas ? Après, l'origine, c'est pas forcément nous qui la décidons, c'est plus effectivement les revendeurs qui, eux, vont nous proposer ce qu'ils peuvent avoir de disponible aussi. Pourquoi en fait aujourd'hui on consomme notamment des engrais russes ? Parce qu'ils sont moins chers en fait. C'est vraiment le gaz qui fait le coût des engrais. Les Russes sont effectivement une origine qui est moins chère et donc qui est plus attractive pour nous. Donc si ces produits-là sont taxés, faut bien prendre conscience que c'est les agriculteurs qui vont payer ces taxes. Et on comprend bien pourquoi le gouvernement et même l'Union européenne veulent sanctionner, donc en mettant des taxes à l'importation d'engrais, veulent sanctionner la Russie. Par contre, on a peur que ce soit nous en fait qui subissions en fait ces taxes. Les agriculteurs en France, on a quand même beaucoup manifesté, c'est depuis plus d'un an maintenant, pour montrer qu'il y avait quand même un réel problème au niveau notamment économique dans nos fermes. Aujourd'hui, faut bien que le gouvernement prenne conscience que les agriculteurs français ne sont pas en état d'assumer ces taxes à l'importation et vont la subir de plein fouet et que ça va encore plus nous pénaliser, nous agriculteurs. Si nos coûts de production augmentent, on est incapable de les répercuter parce que les prix sont mondiaux en fait. Donc c'est pas parce qu'on a un coût de production qui augmente de, admettons, 10%, je dis ça comme ça, que derrière on va dire le prix de nos productions, on va l'augmenter de X% pour rentrer dans nos coûts.
Pour produire des engrais, il faut beaucoup d'énergie. Et avec leurs réserves de gaz naturel, les industriels russes sont immédiatement avantagés. D'autant qu'ils peuvent exporter sans payer de surtaxes. En effet, jusqu'à présent, les fertilisants ne sont pas concernés par les sanctions européennes, au nom de la sécurité alimentaire. Fin janvier, la Commission européenne a annoncé son intention de mettre un terme à cette situation. Elle propose d'augmenter progressivement les droits de douane sur les engrais azotés, en les amenant de 6 à 100% d'ici juillet 2028. De quoi nous obliger à sortir de la dépendance à la Russie à moyen terme ? J'ai posé la question à Arthur Portier, rencontré dans son bureau parisien.
Bonjour. Eh bien,
il est consultant chez Argus Media, une société qui conseille la filière agricole sur la gestion des risques de prix.
Il n'y a même pas de signal lumière. J'arrive tout de suite ici.
Ça marche.
Ces sanctions peuvent accélérer une transition nécessaire. Et ça, c'est vraiment à mettre en avant et à souligner. Et ça peut être un point vraiment intéressant pour la filière à horizon moyen-long terme. Maintenant, à court terme, est-ce que nous sommes prêts à se passer de la Russie ? La réponse est nuancée, ou en tout cas d'un point de vue coût. Le coût sera très certainement à supporter pour le producteur final.
Quand vous dites transition, c'est plutôt transition, on change de fournisseur, ou transition, on va revoir la manière dont on fait usage des intrants pour évoluer vers de nouveaux modèles agricoles ?
Il y a trois transitions possibles. La première, ça, les producteurs et la filière agricole, ils travaillent tous les jours. C'est une transition vers un changement de mode d'engrais, de passer de plus en plus des engrais chimiques, même si, une nouvelle fois, ce sont des scénarios et des événements sur lesquels la filière travaille absolument tous les jours à l'heure où nous nous parlons. La deuxième transition, c'est de rebattre la carte des flux et de s'approvisionner ailleurs. D'autres pays, je pense à l'Algérie, je pense à l'Égypte notamment, peuvent prendre des parts de marché aux Russes, c'est un fait. Il va falloir dresser des partenariats avec ces pays-là, et on le sait actuellement au niveau français, les relations diplomatiques avec l'Algérie sont sujets à tension. Et dans un second temps, ce ne sera probablement pas sur les mêmes coûts, puisque la Russie produit aujourd'hui de l'engrais avec du gaz sur des coûts de production qui sont extrêmement faibles. Et la troisième, c'est de faire un virage et de réindustrialiser l'Europe et de se fournir localement. Mais il va y avoir un temps de décalage entre la mise en place de ces taxes et la capacité des producteurs d'engrais au niveau européen à répondre à la demande européenne. Et c'est ce temps de latence qui peut mettre aujourd'hui en difficulté certains exploitants par la hausse des coûts de production.
Produire nos propres engrais, réindustrialiser, ce serait un énorme défi. Depuis 3 ans, nos fabricants ont été durement touchés par la concurrence russe. Le Norvégien Yara, par exemple, qui fournit une ferme française sur 2, a vu son résultat net chuter de 2,6 milliards d'euros en 2022 à seulement 15 millions en 2024. Son usine de Montoire de Bretagne, près de Saint-Nazaire, a dû arrêter sa production en octobre 2023 et licencier 139 salariés. Taxer les engrais russes aurait donc des conséquences incertaines sur notre agriculture. Mais est-ce qu'au moins cela affecterait les revenus de Moscou ?
Je m'appelle Thierry Pouge, je suis le responsable des études économiques à Chambre d'agriculture France, dont la mission principale est d'appuyer les agriculteurs dans leur stratégie de développement agricole.
À ce jour, la Russie domine le marché des engrais, largement devant la Chine qui est au deuxième rang. La filière russe reste ultra compétitive.
Ça, c'est une grande force de l'économie russe finalement, d'autant plus qu'elle va s'appuyer sur le taux de change du rouble, qui est quand même relativement faible par rapport aux autres monnaies. Mais en plus, elle est capable de diversifier ses débouchés. Donc si elle ne peut plus en vendre à l'Union européenne, elle en vendra ailleurs. Et on le voit bien dans certaines statistiques. L'un de ses premiers clients maintenant, la Russie, c'est le Brésil. Alors non seulement parce qu'il y a la guerre, mais historiquement, depuis quelques années, le Brésil, qui a quand même beaucoup besoin d'engrais, étant donné que c'est quand même un pays humide, etc., donc on est là sur un cercle un peu vicieux. On a du mal à voir comment on pourra en sortir. Plus il y aura de sanctions, plus la Russie aura les moyens de rebondir. C'est assez paradoxal, mais depuis l'annexion de la Crimée, on est dans cette configuration.
Pourquoi nous sommes toujours dépendants des engrais russes ? C'était le reportage de Timothée David.
France Inter. On n'arrête pas l'écho. Alexandra Ben Saïd.
Et mon invité ce samedi 22 février est un économiste russe exilé qui a travaillé sur le mécanisme de sanctions européennes. Bonjour Sergueï Gouriev.
Bonjour Alexandra, merci beaucoup de m'inviter.
On va parler des sanctions européennes. Le 16e paquet a été adopté cette semaine, mais d'abord on va faire connaissance. Vous nous parlez aujourd'hui de Londres, où vous êtes le doyen de la prestigieuse London Business School. Auparavant, Sergueï Gouriev, vous avez été le numéro 2 de Sciences Po à Paris. Et votre parcours est étonnant. Hein. C'est celui d'un jeune homme qui est russe, qui a passé sa jeunesse à Kiev, puis qui devient économiste et qui doit quitter précipitamment la Russie. Ça, c'était en 2013. Qu'est-ce qui a déclenché votre exil ?
En 2013, après le retour de Vladimir Poutine à la présidence, après les années Medvedev, qui ont été plutôt libres, plutôt ouvertes. Donc après, Vladimir Poutine revient en 2012 et commence le nouveau régime. Et les gens comme moi étaient un peu réprimés. Comme Vladimir Poutine a dit, j'ai trop parlé. Et en plus, j'ai soutenu Mikhail Khodorkovsky et Alexei Navalny. Ma femme et moi, on a été parmi les 16 premiers donateurs des fondations contre corruption d'Alexei Navalny. Donc, peut-être c'est ça qui est vraiment la raison pour Vladimir Poutine de me menacer avec arrestation, interrogatoire, perquisition et tout ça. Et après ça, à un moment donné, mes amis qui ont parlé à Vladimir Poutine m'ont dit qu'il faut partir. Et donc j'ai acheté un billet sans retour et quitté la Russie printemps 2013.
Oui, c'est ça. Vous étiez un économiste de renom. Hein. Vous participiez plutôt à des réunions d'experts au Kremlin. Vous soutenez Alexei Navalny. Vous allez devenir son conseiller, son ami. Sur quel combat économique vous rejoignez-vous, Alexei Navalny et vous ?
C'était plutôt le programme économique pour l'élection du maire de Moscou en 2013. Et après, il a aussi essayé de se nommer pour la présidence. Des élections 2018, là, on a aussi beaucoup discuté son programme économique, surtout l'équivalent de SMIC en Russie, par exemple, l'ouverture internationale, le combat contre la corruption, privatisation.
Et aujourd'hui, Sergueï Gouriev, qui porte ces idées en Russie, ces idées économiques, le SMIC, l'ouverture internationale? Est-ce qu'il y a des gens qui soutiennent encore ces idées, qui les défendent?
Oui, je crois qu'il y a beaucoup de gens en Russie qui soutiennent les idées d'économie européenne, économie sociale, économie plus ouverte, plus de concurrence, plus d'inclusion et soutien de tous les partis des sociétés russes. Mais la Russie aujourd'hui, c'est la société qui est très, très réprimée. Les répressions sont beaucoup plus dures qu'avant la guerre de 2022. Donc, le pays a changé. Beaucoup de gens ont quitté le pays. Même les gens qui restent, c'est très dangereux de parler ouvertement.
Alors parlons ouvertement, vous et moi, de la situation actuelle en Russie. Hein. Autour de Vladimir Poutine, on dit tout va bien. Regardez notre taux de croissance, il est au-dessus de 4%. Le chômage est très bas, c'est donc que les sanctions européennes, les sanctions internationales ne touchent pas la Russie. Ça, c'est ce que le Kremlin dit. Alors Sergueï Gouriev, est-ce que ces chiffres officiels, ils sont faux ou est-ce que c'est le pouvoir qui leur fait raconter ce qu'il veut?
Oui, en fait, les chiffres officiels ne sont pas faux. Mais il faut les interpréter correctement. Une économie de guerre, c'est vraiment différent d'une économie normale. En économie normale, la croissance du PIB, c'est une bonne nouvelle. Mais en économie de guerre, c'est vraiment pas une contribution au pouvoir d'achat des ménages. Et donc, ça contribue à l'inflation. Et l'inflation aujourd'hui est 10% par an. Les taux d'intérêt des banques centrales russes est 21%. Donc, c'est vraiment une économie, c'est pas en crise, mais c'est vraiment une économie qui est en situation difficile. L'autre chose, c'est le chômage qui est très bas, c'est vrai. Pourquoi le chômage est très bas? Parce qu'il y a centaines de mille soldats en Ukraine, et en plus, centaines de mille, et peut-être plus que millions de Russes qui ont quitté le pays depuis 2012. Et donc, c'est difficile pour une entreprise civile de trouver les ouvriers, de trouver les employés. Donc, les chiffres sont réels, mais il faut les interpréter correctement et pas comparer aux économies normales.
Et donc, la question qui suit, on se demande naturellement si cette économie que vous décrivez, économie de guerre, qui assèche, j'imagine, avec les taux d'intérêt à 21%, tout le secteur privé, l'investissement des entreprises, ça ne marche pas, les familles sont touchées par l'inflation. Combien de temps est-ce que ça peut durer? Il y a une forme de résilience, mais est-ce que ça peut durer encore longtemps pour l'économie russe?
C'est une question très importante et malheureusement, ce n'est pas facile de répondre. Pourquoi? Parce que le régime est très, très dur et donc les gens n'y peuvent pas protester, manifester et donc changer le régime. Donc, ce régime-là peut durer. Et les gens qui disent que les sanctions ne marchent pas, c'est pas vrai parce que les sanctions sont les contraintes sur le pouvoir économique de Vladimir Poutine pour recruter plus de soldats, pour acheter des munitions, pour produire plus d'armes. Et donc, la pression économique est très, très conséquente. Et pour cette raison-là, Vladimir Poutine a demandé plusieurs fois à président Trump et à l'Union européenne de terminer le régime des sanctions.
Au sujet des sanctions, en effet, il y a les sanctions sur les exportations russes, sur les achats de technologies, sur certaines personnes et leur patrimoine. Vladimir Poutine, vous l'avez dit, demande régulièrement qu'elles soient levées. Et là, depuis le 20 janvier, en réalité, on entend que Donald Trump, il est prêt à lever les sanctions américaines pour satisfaire Moscou et obtenir la fin de la guerre. Sergueï Gouriev, qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne comprends pas pourquoi Donald Trump a choisi de donner Vladimir Poutine cet espoir de lever des sanctions. Au contraire, Donald Trump peut menacer Vladimir Poutine avec plus de sanctions, plus fortes et plus dures, et après aussi donner plus de matériel à l'Ukraine. Et donc, avec cette menace-là, Donald Trump peut forcer le main de Moscou pour obtenir la fin de la guerre. Je crois que c'est très difficile d'expliquer pourquoi Donald Trump a agi comme un ami de Vladimir Poutine. Si Donald Trump voulait arrêter cette guerre en 24 heures, c'était possible, mais maintenant c'est pas clair pourquoi il veut agir comme un ami de Vladimir Poutine.
Alors, dans le scénario où les Américains lèvent ou assouplissent leurs propres sanctions, est-ce que c'est possible pour les Européens de maintenir toute cette punition économique sur la Russie seule?
Oui, c'est possible. Et le pouvoir économique de l'Europe n'est pas négligeable. Et donc, dans les dernières années, l'Europe a aussi introduit l'instrument des sanctions secondaires. C'est super important parce qu'il y a beaucoup de pays tiers qui aident Vladimir Poutine de contourner des sanctions. Mais quand même, le rôle des États-Unis est super important, surtout avec intelligence financière, les services spéciaux, avec le rôle très, très singulier du dollar. Donc, si les États-Unis arrêtent les sanctions ou arrêtent le durcissement des sanctions, ça va être difficile pour l'Europe. Mais quand même, l'Europe peut faire beaucoup de choses.
Il y a 300 milliards d'actifs russes gelés, en majorité auprès d'une chambre de compensation en Belgique. Que faudrait-il en faire, à votre avis?
Je suis très, très clair là-dessus. Je crois que 300 milliards doivent être donnés à l'Ukraine pour la reconstruction. Parce que sinon, qui va payer? Les vraies agressions, c'est l'agression russe, donc c'est la Russie qui doit payer. L'endommagement de cette guerre pour l'Ukraine est estimé à quelque part comme 400-500 milliards de dollars, donc 300 milliards, ça va être pas négligeable pour l'Ukraine.
Sergueï Gouriev, au sujet des richesses de l'Ukraine justement, Donald Trump demande un accès aux minerais stratégiques et aux terres rares ukrainiennes en compensation du soutien que les États-Unis ont pu accorder à l'Ukraine. Comment regardez-vous ça?
J'étais très très surpris parce que c'est la première fois quand la victime de l'agression et demander à payer les réparations, en fait. Donc, je ne comprends pas pourquoi. Mais quand même, il y a une autre chose ici, qui est les minéraux stratégiques ou terres rares de l'Ukraine. En fait, la majorité de ces minéraux et terres rares sont dans les territoires occupés par la Russie. Donc, ça ajoute des complexités. Ce n'est pas dans les territoires libres de l'Ukraine.
Le président américain, vous l'avez dit, il s'est donné pour objectif de mettre fin à la guerre en Ukraine. Il a d'abord dit 24 heures, puis 100 jours. Est-ce que vous, vous croyez à la résolution de ce conflit en 2025?
Je crois que c'est possible. Et ça dépend de Donald Trump. Donald Trump peut menacer le président de l'Ukraine. On a déjà vu ça avec... Par exemple, arrêt d'aide militaire. Et vous m'avez demandé sur le rôle de l'Europe. Malheureusement, l'Europe n'a pas de matériel, n'a pas de services de renseignement. Donc, l'Ukraine a vraiment besoin de soutien américain. Donc, Trump peut forcer les mains de l'Ukraine. Mais également, Trump, comme j'ai déjà dit, peut forcer les mains de Vladimir Poutine très facilement, avec la menace d'augmenter le soutien militaire de l'Ukraine et avec la menace de durcissement des sanctions. Donc, si Donald Trump veut obtenir la fin de la guerre, il peut. Et c'est tout à fait possible cette année. Mais je ne suis pas sûr s'il veut le faire.
L'économiste Sergueï Gouriev, merci à vous d'avoir accepté l'invitation d'On n'arrête pas l'écho.
Merci beaucoup, Alexandra.
On n'arrête pas l'écho. Sur France Inter.
Christian Chavagneux, c'est l'écho à la page. Alors, chaque dernier samedi du mois, vous nous donnez vos conseils de lecture. Et on commence par parler de notre quotidien et encore plus celui de nos enfants.
Ouais, c'est pas un livre, c'est un cri d'alarme que pousse la neurologue Servan Mouton. C'est dans Écran, un désastre sanitaire. Il est encore temps d'agir, c'est optimiste. Vous savez, c'est un petit tract Gallimard, c'est les bouquins à 3,90 €. Je vous vois plisser les yeux, Alexandra. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes victimes d'une épidémie mondiale de myopie. En France, 42% des 10-19 ans ont un problème de myopie. Pourquoi ? Les écrans. La vision de près, toujours collée sur l'écran. La mauvaise lumière, toujours en lumière artificielle et pas en lumière naturelle. Vous en voulez encore ? Ça altère le sommeil. Ça épuise les capacités cognitives et attentionnelles. Ça dégrade la santé mentale, surtout des jeunes filles. Et ça accroît les comportements agressifs. Ça vous va comme ça ? C'est un véritable désastre sanitaire, nous dit Servan Mouton. Elle donne des pistes de solutions à la fin. Bref, il faut agir. C'est un problème de santé publique.
Oui, donc un problème économique. Le désastre sanitaire, ça a un coût économique. Christian, on passe aussi à votre passion, là. C'est l'histoire économique.
Hein. Ah ouais, moi j'adore les gros bouquins pleins d'histoire économique. Celui-ci s'appelle « Multinationale, une histoire du monde contemporain ». C'est dirigé par Olivier Petitjean et Yvan Duroy, c'est aux éditions La Découverte. Écoutez bien, une cinquantaine d'auteurs et d'autrices, 140 dates, une histoire des multinationales du monde entier, du milieu du 19e à nos jours, rien que ça. Alors, bon, je ne peux pas vous résumer tout ça, les 140 dates, mais il y a un thème qui m'intéresse, c'est multinationales contre les États. Bon, déjà, le bouquin nous dit, les multinationales, ce n'est pas un bloc. Sam Altman, Elon Musk, on l'a compris. Mais là, vous allez voir, par exemple, les batailles entre Edison et Westinghouse. Le premier qui essaie de dire, non, le courant alternatif, ça ne marche pas pour détruire son concurrent. Et puis, les multinationales contre les États, oui, mais plutôt tout contre. Hein. Vous avez des exemples de capitalisme de connivence, le rôle de la commande publique, les partenariats publics-privés, les profits liés à la colonisation, les politiques industrielles, les profiteurs de guerre et de pandémie de, bien sûr, Krupp à Pfizer. Plus plein de chapitres pour nous expliquer comment les salariés, la société civile se battent contre les mauvaises pratiques des multinationales. Moi, je suis ressorti du bouquin en me disant « Waouh, tous ces entrepreneurs, ils sont vraiment géniaux, ils changent le monde » et en même temps, complètement atterré par le fait que beaucoup d'entre eux vraiment se sont corrompus, collaborent avec des régimes ultra-violents, sont prêts à tout pour vendre leurs produits, y compris si ça détruit notre santé. C'est un livre à garder à portée de main.
L'écho à la page avec Christian Chavagneux d'Alternatives économiques.